Samuel nous rappelait la présence divine dans toute chose, en toute situation, et notamment dans les choses minuscules. Et j'ai donc choisi un homme minuscule, un avorton, pour conduire notre méditation ce matin. Cet avorton, bien sûr, c'est l'apôtre Paul. Et dans tout ce qu'il a écrit, il y a notamment ce récit qui le met en scène précisément en tant qu'être minuscule. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens, c'est au chapitre 12, et je vais vous lire les 10 premiers versets. Il faut se glorifier ? Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps ? Je ne sais. Était-ce hors de son corps ? Je ne sais. Dieu le sait. Fut ravi jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps ? Je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Frères et sœurs, prenons notre recueil de chants, louanges et prières au cantique 172, manière de célébrer l'Éternel avec les strophes 1, 2 et 3. Levons-nous pour chanter Dieu. Puissions-nous maintenant faire silence en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre. Puissions-nous maintenant nous mettre à l'écoute des bruissements de la vie portés à sa plénitude. Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul, dans cette deuxième lettre aux Corinthiens, doit faire face à ce qu'il appelle un peu plus tôt des super-apôtres. Des super-apôtres qui sont passés après lui à Corinthe et qui ont manifestement subjugué la communauté qu'il avait édifiée. Et donc Paul doit défendre son ministère, il doit faire face à cette forme de concurrence. Et la question qui se pose, c'est de savoir si l'apôtre Paul fait preuve d'une fausse modestie dans sa défense contre ses super-apôtres. Paul est-il véritablement l'apôtre de la faiblesse, comme il le prétend dans ce texte, ou joue-t-il le jeu du misérabilisme pour attirer la compassion de ses interlocuteurs ? Paul est-il un fin tacticien qui joue avec le sentiment des autres ? Ou alors fonde-t-il une théologie préférentielle pour les faibles ? La première chose que j'aimerais vous montrer, c'est que Paul, à la suite des autres rédacteurs bibliques, fait face, en tous les cas, à une théologie de la gloire. Et Paul, avec d'autres auteurs bibliques, récuse une théologie de la gloire. Si nous considérons que Paul est un bon tacticien, ce qu'il est manifestement, alors il faut considérer que son discours sur la faiblesse n'est pas ironique et qu'il n'est pas une manière de susciter la peine. En effet, nous l'avons tous appris de nos grands-mères, mieux vaut faire envie que pitié. Bien, je vous l'accorde, cet argument ne suffit pas à en conclure que Paul est donc sérieux et sincère quand il parle de la faiblesse. Il convient d'évaluer cet éloge de la faiblesse au regard du corpus biblique. Je ne ferai que quelques sondages, car évidemment, s'il faut parcourir les 66 livres, nous en avons jusqu'à dimanche prochain. Ceci étant, il y aura une heure supplémentaire. Dans les écrits du Nouveau Testament, le refus d'une théologie de la gloire est bien sûr présente en particulier dans l'Épître aux Philippiens, qui chante un Christ Jésus qui n'a pas cherché à se prévaloir de sa condition divine pour surpasser son monde. Il a pris une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, jusqu'à la mort. Et ce thème de la mort, et plus précisément de la mort sur une croix, est présent chez Paul qui affirme qu'il a prêché un Christ crucifié, dans la première épître aux Corinthiens, et un peu plus loin, qu'il n'a pas eu la pensée de savoir parmi nous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et dans l'esprit de Paul, la croix n'est pas d'abord un objet de supplice. La croix est d'abord ce qui révèle l'authenticité du Christ, l'authenticité de Dieu, un divin qui refuse les attributs de la gloire pour se manifester pleinement à l'humanité. Cela s'accorde évidemment à l'attitude de Jésus durant sa vie, durant son ministère, du moins telle que les évangélistes canoniques nous le rapportent. Jésus qui, c'est ce qu'il dit lui-même selon les évangélistes, ne s'est pas révolté d'être mis au nombre des malfaiteurs. Autrement dit, un Jésus qui accepte de se conformer à la nature la plus dégradée qui soit. Jésus n'a tiré aucune gloire personnelle de tout ce qu'il a fait, de tout ce qui lui est arrivé, ce qu'on appelle le secret messianique, c'est-à-dire qu'il recommande après chaque miracle de surtout ne rien dire, de ne pas répandre quelques faits surnaturels qui pourraient lui être attribués, corrobore cette idée selon laquelle le Messie ne cherche pas les esbroufes. Le Messie n'est pas dans la gloriole. C'est la marque du Messie que l'on retrouve un peu plus tôt dans le Premier Testament, avec bien sûr les traits du serviteur souffrant, dans le prophète Ésaïe au chapitre 53. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Les lycéens diraient aujourd'hui, il n'avait pas de face. Le serviteur souffrant, préfiguration du Messie. Préfiguration, mais pas la première préfiguration. Tout cela s'inscrit dans la filiation de Joseph, dans le livre de la Genèse, pour constater que celui par lequel le salut arrive est la figure de l'humble, celui qui est maltraité, celui qui est jeté au cachot, celui qui risque de mourir, celui qui n'a aucune superbe, à l'image de David, contrairement à l'idée qu'on en a. David, c'est celui auquel on ne pensait pas. Et c'est pourtant celui qui est élu, parce que c'était le plus jeune, le plus petit, celui qui n'avait pas l'allure du super-héros, du super-apôtre. Celui qui fait la volonté de Dieu n'est pas reconnaissable à son apparence glorieuse. Et de façon plus générale, la gloriole n'est pas dans la tradition chrétienne. Ou plutôt, lorsqu'elle l'a été, ce fut l'occasion de réformes profondes. Pensons au Moyen-Âge, pensons au XVIe siècle. La stupéfaction de ces chrétiens devant le luxe, devant l'opulence, tout à l'opposé de ce que le Christ Jésus avait manifesté. D'ailleurs, peut-être a-t-on compris 2 Corinthiens 12 à l'excès au XVIe siècle quand on parle de l'austérité protestante. Je ne parlerai pas de Jean Calvin qui, à mon avis, n'était pas si austère que cela, mais Martin Luther. Martin Luther s'astreignait à une discipline de fer pour plaire à Dieu. Des jeûnes rigoureux, vivre dans le froid, tout cela pour attirer les grâces divines. La gloire est à Dieu, à Dieu seul la gloire, pas à ses lieutenants. Et c'est la raison pour laquelle Paul va disqualifier les super-apôtres auxquels il fait face. Paul récuse le spectaculaire, l'ostensible, comme attestation d'une proximité avec Dieu. À vrai dire, et c'est cela aussi la théologie paulinienne, et c'est cela aussi que nous disait Samuel, nous pourrions tous nous vanter de quelque chose. Nous pourrions tous participer au grand concours de celui qui a bénéficié d'une grâce divine. Car Dieu accorde ses dons à tous, mais tous n'en font pas étalage. Dieu aime chacun, mais tous n'en font pas un motif de fierté personnelle ni leur fonds de commerce. Les rédacteurs bibliques disqualifient une théologie de la gloire. Mais ils font mieux que cela. Il me semble qu'ils proposent une option préférentielle pour la faiblesse, pour les faibles. Paul récuse clairement la gloire et la vantardise au profit d'une théologie qui s'exprime par la faiblesse. Le mot revient souvent dans ce texte précisément. Un texte grec qui parle d'asthénie. La faiblesse, c'est quand on est asthénique. Eh bien, la faiblesse, selon Paul, c'est le lieu où le divin s'exprime par excellence. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse, écrit-il. Dieu nous vient sous les traits d'un nouveau-né qui n'a même pas de place pour naître correctement. Dieu vient à nous sous les traits de prophètes qui, comme Jean le Baptiste, devait plutôt faire peur. Il devait être affreux. Dieu vient à nous par Moïse le bègue, par Jacob le fourbe, par Jonas le trouillard, par ces traîtres de disciples de Jésus. Le salut entre par ce voleur de Zachée. Le paradis est promis aux brigands condamnés à mort avec Jésus. Faiblesse, faiblesse, faiblesse. Ce ne sont pas des surhommes qui manifestent le divin, mais ce que notre monde, ce que notre histoire compte de moins glorieux. Les textes bibliques développent une option préférentielle pour les faibles. Et Jésus, selon les évangélistes, dira « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais des pécheurs. » Façon de dire que le Christ Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, les nuls, les exclus, les faibles. Il y a dans cette perspective biblique une option préférentielle pour les faibles, c'est incontestable. Une option préférentielle pour ce qui a le moins de poids dans la société. Et cela s'affirmait dès les premières pages de la Bible, avec Abel, la buée, ce qui n'a que très peu de consistance, ce qui est extrêmement vulnérable, Abel, la buée. C'est lui qui aura une postérité, malgré sa fragilité constitutive et la violence qui va s'abattre sur lui. Et cela va se confirmer par la suite. L'Éternel prend soin de ceux qui sont menacés de famine, de stérilité, d'extinction. Dieu ramène à la vie ce qui est menacé, ce qui est desséché, fût-ce un peuple tout entier qui ne valait guère plus que quelques ossements secs. Les textes bibliques ne parlent que de cela, de l'Éternel qui fait advenir ce qui n'a que peu d'intérêt pour le regard superficiel des hommes, mais qui en fait s'avère être détenteur d'une richesse insoupçonnée. L'option préférentielle pour les faibles, c'est une manière de dire l'option préférentielle pour l'humanité, tout simplement. Que ce soit Coëlette, qui dit, non pas vanité des vanités, tout est vanité, mais buée des buées, tout est buée, car c'est le terme Evel qui est encore utilisé sous la plume de Coëlette. Que ce soit le psaume 103, qui s'intéressant à la nature humaine, on vient à dire, l'homme, mais ses jours sont comme l'herbe, et il fleurit comme la fleur des champs, et lorsqu'un vent passe sur elle, il n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. À vrai dire, lorsque nous prenons au sérieux les textes bibliques, prétendre posséder une force naturelle relève purement et simplement du déni. La condition de l'homme est fragilité, vulnérabilité. Et je crois que c'est cela que les réformateurs du XVIe siècle tentaient d'exprimer par leur usage massif du terme « péché ». L'homme est pécheur et il est vulnérable lorsqu'il ne compte que sur lui-même, lorsqu'il s'enferme dans sa superbe, lorsqu'il refuse la grâce, lorsqu'il refuse l'amour qui lui est permis d'accueillir. L'option préférentielle pour les faibles, nous pourrions en parler à travers une multitude de figures. Je ne retiens que celle de John Bost, si peu connu. Lui qui disait « Ceux que tout repousse, je les accueillerai au nom de mon maître. » L'option préférentielle pour les faibles, ce n'est pas simplement le misérabilisme, c'est l'attention portée à l'homme tout simplement, à l'homme véritable, et non à l'homme qui se prétend invulnérable, au-dessus de tout, pensant peut-être bénéficier d'une sorte d'impunité absolue. L'option préférentielle pour les faibles, c'est le soin pour tous. C'est la grâce pour tous, parce que nous partageons tous cette même condition. Va avec la force que tu as, est-il dit au petit Gédéon. Et non, va avec une prétendue puissance, qui ne serait que le fruit d'une mythomanie. Va avec la force que tu as, car tu n'es pas seul, est-il précisé. Il en va de même pour Jacob. Partout où tu iras, je serai avec toi. Pas de théologie de la gloire, une option préférentielle pour la faiblesse et cette grâce. Cette grâce qui est peut-être la réponse à cette injustice démesurée, cette injustice qui n'en finissait pas, dont parlait également Samuel. La grâce, peut-être, est-ce justement une œuvre de justice infinie. Mais la grâce, il convient de dire qu'elle n'a pas les mêmes effets pour tous. Nous n'en sommes pas tous au même point de notre cheminement personnel, nous n'en sommes pas tous au même point de notre humanisation, et la grâce est donc un soin personnalisé. Et cela correspond assez bien à cet oracle d'Ésaïe, « Je t'appelle par ton nom ». Et peut-être est-ce cela la grâce du baptême. C'est de savoir que nous sommes aimés pour ce que nous sommes, pour notre nom, pour ce qu'il y a de plus intime, pour ce qu'il y a de plus personnel, et non pour une idée que l'on se ferait de nous, pour une sorte d'idéal jamais accessible. La grâce, c'est fournir à quelqu'un ce dont il a profondément besoin, et non ce qui fait plaisir d'offrir. La grâce, c'est cet amour différencié, qui tient compte des situations individuelles. C'est peut-être pour cela que Paul n'a pas vraiment eu ce qu'il souhaitait. Rejette loin de moi cet ange de Satan, qu'on m'ôte cette écharde de la chair. Eh bien, trois fois, on lui dira, ma grâce te suffit. Tu te trompes de désir, mon cher Paul. Ce n'est pas ce dont tu as besoin. C'est peut-être ce qui te ferait plaisir, mais ce n'est pas ce dont tu as besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de la justice telle qu'elle s'exprime dans ces textes bibliques. Et la justice dans les textes bibliques, ce n'est pas d'abord la condamnation du coupable, oui, bien sûr, pour une part, c'est cela. Mais la justice, c'est d'abord identifier la victime, reconnaître que la victime est victime, et ensuite essayer de restaurer autant que possible son intégrité. Le Premier Testament fourmille de l'expression « Dieu fait droit ». Dieu fait droit à la veuve et à l'orphelin. Il aime l'étranger, qui sont les figures les plus faibles de la société. Il fait droit à l'opprimé. Et cela se constate tout au long de nos textes bibliques. C'est le sens de l'Exode, qui consiste à libérer le peuple opprimé, à lui rendre la possibilité de célébrer le culte, c'est-à-dire avoir une vie qui peut s'épanouir dans toutes ses dimensions. Et c'est une démarche infinie, car nous pouvons toujours progresser dans notre humanité, dans notre développement personnel. À la manière du peuple hébreu qui n'en finit pas de sortir d'Égypte, à la manière du peuple hébreu qui n'en finit pas d'entrer en terre promise. Il y a évidemment un petit côté agaçant chez Paul. On pourrait se dire que cela confine au masochisme, surtout ce dernier verset. Je me plais dans toute cette liste d'horreurs qu'il nous cite. Est-ce que l'option préférentielle pour la faiblesse doit nous conduire à affaiblir ceux que nous rencontrons, à maintenir les pauvres dans leur situation de pauvreté, ce qui parfois est le cas dans nos centres sociaux, dans nos actions diaconales? On laisse un peu mijoter les gens dans leur jus, notamment lorsque nous nous professionnalisons, parce que tant que nous avons des pauvres, nous recevons des subventions, et ça permet de maintenir les salaires. Et ça, c'est un effet pervers auquel je vous rends attentif en passant. Mais je reviens à cette question du masochisme paulinien. Faut-il chercher pour nous-mêmes toutes sortes d'outrages, de privations, de persécutions, d'angoisses? Bref, faut-il passer notre temps à nous mortifier? Je ne pense pas que Paul soit dans cette optique-là. Je ne pense pas que Paul cherche à pratiquer l'affaiblissement général, au prétexte que cela nous permettrait d'être d'autant plus justifiés. Vous savez que c'est une mauvaise compréhension de Luther, ça. Plus je pèse, plus je suis pardonné. On a l'impression que c'est une course au plus grand péché pour être le plus pardonné possible. Se plaire dans les faiblesses ne consiste pas à les chercher à tout prix. Cela consiste à ne pas nier ce que nous sommes. Abel, l'être vulnérable. Pour bénéficier de ce qui est promis à l'homme, la grâce d'être relevé, la grâce d'être restauré dans sa dignité. la grâce de devenir quelqu'un capable de certains accomplissements. Contrairement aux super apôtres, Paul ne manifeste aucun orgueil, aucun complexe de supériorité, bien au contraire. Il témoigne plutôt d'une sorte d'humilité, même maladive à la limite, se contentant de prier Dieu de changer la situation. Eh bien, cela signifie que Paul pressent qu'un autre ordre du monde serait possible. Il pressent que sa vie pourrait être autre chose, qu'il y a une distance entre ce qu'il pourrait accomplir et ce qu'il accomplit effectivement. Et en s'opposant aux super apôtres, il s'oppose à ces gens orgueilleux qui n'ont finalement aucune considération pour Paul, qui considèrent que Paul ne vaut rien, que Paul est sans intérêt. Ce sont des super apôtres qui s'enferment dans une posture arrogante. Et du même coup, ils se privent de la richesse intérieure de Paul. Ils se privent de sa force de conviction. Ils se privent de son engagement au service de l'Évangile. Ils se privent d'une compréhension de l'humanité qui leur fait cruellement défaut. Au lieu de se mettre à l'école de la faiblesse, au lieu de prendre conscience que nous tirons tous notre existence d'un autre que nous-mêmes, au lieu de prendre conscience que nous ne sommes pas auto-fondés, au lieu de prendre conscience que nous ne pouvons pas être des êtres solitaires, à moins de nous couper de tout, à moins de devenir des êtres sectaires et donc solitaires, eh bien, les apôtres, les super apôtres, auraient mieux fait de se mettre à l'école de Paul et de découvrir que nous sommes des êtres solidaires. Et parce que nous sommes solidaires les uns des autres, alors nous sommes au bénéfice d'une puissance bien supérieure à ce que nous sommes capables seuls. Paul baisse la garde. Paul rend les armes. Paul ne s'enferme pas dans sa superbe. Paul refuse d'être dans le spectaculaire. Il se reconnaît comme être vulnérable, comme être qui a besoin de l'autre. Il est comme Bartimée qui implore la pitié du Christ passant devant lui. Il est comme toutes celles et ceux qui implorent ce qui leur fait cruellement défaut. Et alors du coup, il reçoit. En ne s'enfermant pas dans sa superbe, en faisant preuve d'une humilité véritable, il va pouvoir recevoir ce que le théologien Paul Tillich appelait le courage d'être. Ce courage qui nous permet d'être acceptés en dépit du fait que nous sommes inacceptables. Quand je suis faible, voyez-vous, c'est alors que je suis fort. Amen.